des enjeux internationaux.
Georges Urdin, bonjour.
Bonjour.
Alors, merci d'être avec nous. On va évoquer cette question de leadership qui est sensiblement différente d'ailleurs dans le monde économique et dans le monde politique. Vous avez vous-même exercé des responsabilités importantes dans de grands groupes, notamment la chimie, l'électronique, l'automobile. Oui. Vous avez fait paraître, donc avec vos deux co-auteurs, un ouvrage intitulé justement « Le leadership en action » aux éditions de l'Harmattan. Alors, c'est la grande question, vous y revenez d'ailleurs dans votre texte, c'est un livre bilingue. D'ailleurs, certains chapitres en anglais, d'autres en français, il faut le dire. Alors, vous revenez sur cette question de la traduction, parce qu'on ne sait jamais très bien en français comment traduire leadership. To lead, c'est évidemment mener. Ça signifie en même temps diriger, orienter, être le chef, bref, entraîner. Mais on ne peut pas dire entraîneur, c'est un côté complètement sportif. Alors, c'est un concept anglo-saxon, communément admis. Il dépend beaucoup, et ça vous insistez, c'est intéressant pour nous, France Culture, il dépend beaucoup du facteur culturel. C'est-à-dire qu'on ne dirige pas à Rome comme à Berlin ou à Paris. Et puis, il reste quand même à savoir qu'est-ce que c'est que le leadership, quelle définition? Et je vous propose d'ailleurs une définition de Napoléon à propos de la guerre. Il y a des parentés avec le leadership. Napoléon disait « La guerre est un art simple. » Ça, c'est encore à voir. « La guerre est un art simple. » Et le plus important, ce qu'il disait, est tout d'exécution. Et le leadership, justement, c'est plus un processus qu'une donnée stable et durable. Alors, comment est-ce que vous traduiriez le leadership? Leader, bon, c'est pas tellement facile même à traduire.
Les traductions sont jamais littérales, mot pour mot. Elles sont imprégnées d'un contexte culturel, historique, qui fait que lorsqu'on traduit, on trahit forcément. Enfin. Mais là, c'est particulièrement vrai. Donc, quand on regarde le mot leader, c'est naturellement pas un mot français, enfin, ça en aperçoit. Alors, pourquoi est-ce que c'est un mot d'importation avec lequel on vit aujourd'hui communément? Si on prend les mots français qui seraient le plus proche, on pourrait penser à diriger. Ce manque dans diriger, vous avez la racine latine rex qui veut dire le roi, donc c'est effectivement la notion de règne qui renvoie à une structure hiérarchique de la société.
Et verticale.
Verticale, politique et verticale. Ce qui est très loin de to lead qui veut dire diriger, qui veut dire inspirer aussi. Alors, et nous on est assez court, on a la notion de chef. Chef qui renvoie à la notion de latin aussi, hein, caput qui veut dire la tête, qu'on va trouver dans capitaine, chef c'est exactement la même racine, qui renvoie aussi à une structure hiérarchique de nouveau. Donc ce n'est pas une autorité naturelle auquel ça le renvoie, mais une autorité soit divine, enfin le roi était donc de droit divin, ou une structure pyramidale hiérarchique. Donc on ne retrouve pas cette notion de leadership qui est tout l'inverse, hein, puisqu'il s'agit d'une autorité naturelle, charismatique, etc., etc. Alors, si vous prenez les Espagnols, ils ne sont pas beaucoup mieux lotis, puisqu'ils ont la notion de jefe, si vous voulez, de chef aussi, qui renvoie aussi à ses racines latines. Et puis, si vous prenez les Allemands, là, c'est l'inverse, c'est une pléthore de mots. Hein. On a effectivement le mot qui est très connoté pour les Français, qui est Führer, mais il faut savoir que ce mot Führer, il existe encore aujourd'hui, donc Geschäftsführer, qui est en fait le gérant d'une société, qui est son PDG, si vous voulez, hein, donc au quotidien. Vous avez aussi le nom de Leitung, qui veut dire la conduite, notion de conduite, que vous ne retrouvez pas en français, par exemple. Et puis aussi, vous avez des notions de Vorsitz der Verwaltungsrat, qui veut dire en fait président de conseil d'administration, par exemple. Vorsitz veut dire celui qui s'assoit, qui siège, mais en avant des autres. Donc il y a la notion d'entraînement. Donc vous voyez qu'en fait, cette notion de leadership, elle est déjà compliquée à traduire dans notre propre langue en français. Et les acceptions et derrière les représentations sont complètement différentes.
Alors vous insistez aussi sur le facteur culturel, c'est très intéressant, d'un pays, on va dire, européen à l'autre, et même du côté des Américains transatlantiques.
Alors complètement, le leadership, si vous voulez, est fait, j'allais dire, à part égale. Donc on est comme dans des sciences qui sont sociales, donc l'aspect quantitatif n'est pas fondamental, mais partagé entre des invariants, un bloc d'invariants dans le leadership, le charisme, etc., le fait d'inspirer les autres, et puis un bloc de valeurs culturelles qui sont fondamentales au leadership. Par exemple, si je prends le cas de la Suède où j'ai exercé, vous avez un leadership qui est en fait un leadership plutôt de consensus, c'est-à-dire que les Suédois, dans les conseils d'administration, dans les conseils exécutifs, dans les entreprises, vont travailler sur la notion de consensus. Donc une organisation plate, il y a très peu d'hiérarchie réelle, c'est au quotidien, il n'y a pas de signe ostentatoire du pouvoir, et vous êtes dans la recherche du consensus. Donc le leader parfait pour un Suédois, c'est celui qui va amener le consensus. Là, c'est, en gros, ça va être celui qui va amener la paix et pas la guerre, si vous voulez. Si vous prenez le Britannique, le leadership, ça va être typiquement l'entrepreneur. Hein, c'est Branson, c'est Virgin, c'est l'entrepreneur, c'est le leader, celui qui entreprend, qui prend des risques, etc., qui va. C'est ça le leader. Si vous prenez le leadership à l'américaine, ça va être typiquement quelqu'un qui a une vision typiquement et qui est capable d'entraîner les autres sur une vision. Alors très clairement, c'est Jack Welch. C'est Jack Welch, c'est Kennedy, c'est Luther King, c'est le leadership à l'américaine, si vous voulez. En France, c'est plus compliqué puisqu'on a une notion qui est une notion, on revient à la notion pyramidale, d'appareil. Et le leadership, dans très peu de cas, transcende l'appareil. Bon, on a eu des cas historiques dans les gens politiques, mais la plupart du temps, c'est des gens issus de l'appareil, notamment d'un appareil d'État, puisque la France est, je veux dire quelque chose qui a peut-être choqué nos
auditeurs. Une construction politique, oui.
Ou une monarchie élective. Donc, quelque part, on a des vestiges de l'ancien régime dans les structures de pouvoir. Alors, et ses représentations.
Il y a des aspects d'ailleurs en partie autobiographiques très intéressants dans cet ouvrage, je rappelle, qui s'intitule « Le leadership en action chez l'armatan ». Vous dites une chose très intéressante, c'est que quand on prend des décisions évidemment importantes, il faut toujours anticiper les conséquences de ces décisions, et notamment auprès des personnes, alors ce n'est pas, qui vous les appelez des meneurs, mais qui sont en, des suiveurs plutôt, mais qui sont en dessous. C'est-à-dire que ça, c'est très français. On décide et puis après, on voit les dégâts.
Oui, alors, je ne vais pas rentrer dans une dichotomie France versus le reste du monde parce que c'est pas exactement comme ça se passe. Mais effectivement, l'anticipation des décisions que l'on prend, elle est très liée de nouveau au contexte culturel dans lequel vous exercez. J'ai mis l'anecdote, mais on n'aura pas le temps, notamment de cas de transplants. Lorsque vous avez des leaders étrangers qui viennent exercer dans des pays qui ne sont pas leur culture d'origine. Notamment, j'ai un cas croustillant, mais je n'aurai pas le temps de le développer ici, d'un Suédois que l'on avait importé dans une grande entreprise française. Et c'était absolument catastrophique parce qu'il ne répondait pas aux attentes de cette hiérarchie apparente.
Alors, il y a une chose aussi qui frappe, c'est le dans l'exercice de l'autorité, c'est moi ce qui m'a toujours frappé dans quelques sociétés que ce fut, c'est la circulation de l'information. C'est-à-dire que souvent l'information est considérée en interne comme un secret, mais c'est un outil de pouvoir. Alors on ne dit pas les choses, et alors vous imaginez les conséquences.
Alors vous faites appel à ce que je développe dans les derniers chapitres, qui d'ailleurs a été développée avant moi par Fukuyama, la notion du bad leader. C'est-à-dire du bad empereur, le mauvais empereur. Comment est-ce que l'on peut effectivement se prémunir d'un mauvais empereur, quelqu'un qui serait un leader, mais qui ne serait pas un leader authentique ou honnête, mais qui serait un manipulateur, en fait. Ce que moi j'ai appelé modestement le leader politique, entre guillemets, peut-être au sens de politique, politicien, qui va manipuler cette information. Effectivement, c'est un vrai sujet, et il n'a échappé à personne. Comment se prémunir, comment le système peut se prémunir d'avoir soit la tête d'entreprise, soit la tête de système politique, ce que Fukuyama appelle le bad empereur. Mais Confucius l'avait vu avant lui.
Donc, je rappelle le titre de votre ouvrage, Le leadership en action. C'est un ouvrage donc avec deux co-auteurs.
Alors, c'est un ouvrage à trois voix, si je puis dire. J'ai deux co-auteurs, Olin Odeveke, qui est en fait un Américain, qui est à la fois docteur en psychologie, qui a exercé le management et qui est aussi général dans la garde nationale américaine. Et puis, Deborah Robbins, qui elle a fait l'équivalent de l'ENA anglais. Enfin, l'ENA n'a pas d'équivalent, mais l'équivalent de l'ENA anglais, qui est psychologue aussi et qui exerce en Australie. Donc ça fait trois visions, Pacifique, Amérique et de mon point de vue, France.
Voilà, pour écouter l'émission évidemment, franceculture.fr et puis pour la télécharger, toujours franceculture.fr. Merci.